On ne va pas se mentir, la réalité des marchés. Une émission proposée par Guy Hocquet, présentée par Stéphane Fritz et Fabrice Coustet sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans On va pas se mentir, une émission proposée par le réseau Guy Hocquet. On est ravis de vous retrouver pour cette émission, vous le savez, qui décrypte l'immobilier, toutes les coutures, sans phare, sans mensonge, en tout cas on l'espère. Alors on s'intéresse ce mois-ci à l'achat et à la vente, on le sait, le printemps de l'immobilier bat son plein. Comment se passent concrètement les achats sur le terrain? Les acheteurs négocient-ils davantage? Les banques sont-elles en train de réduire la voilure? On sait que les taux augmentent, elles sont en train de fermer leurs portes à certains profils. Autant de questions que nous allons aborder avec nos experts du jour. On est ravis de les accueillir, à commencer par le président de Guy Hocquet, Stéphane Fritz. Bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et tous.
Comment ça va?
Ça va très bien.
En pleine forme?
Toujours.
Mon numéro, super. À vos côtés, Julie Bachet. Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Vous Financez.
C'est ça.
Un petit mot sur le réseau.
Vous Financez, c'est un réseau d'environ 200 agences, présente un petit peu partout en France et qui va fêter ses 15 ans prochainement.
Voilà, on a besoin de vos lumières, notamment sur les taux de crédit qui, on le dit, sont en train de bondir. On a beaucoup parlé d'inflation. Vous allez nous expliquer les mécanismes, à combien on peut investir aujourd'hui. Est-ce que c'est le moment?
Avec plaisir.
Puis, enfin, notre grand témoin, on est ravis d'accueillir Thomas Michel. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté, puisque vous n'aviez pas prévu au programme, mais vous avez switché avec un autre franchisé qui devait être là, mais qui, je crois, vient d'être papa.
C'est
ça. Félicitations à lui. Vous êtes franchisé Guy Hocquet dans le 20e avec deux agences.
Exactement.
Voilà. Et de vous, on va tout savoir sur ce qui se passe réellement à Paris. Est-ce que c'est l'exode? Est-ce que les Parisiens sont en train de quitter la ville? Est-ce que les prix sont réellement en train de baisser? On a entendu sur nos antennes et ailleurs un prix peut-être à Paris en train de tangenter les 10 000 euros le mètre carré, mais cette fois à la baisse. Est-ce que c'est vraiment une réalité? On saura tout dans ce nouvel épisode dont on ne va pas se mentir.
On ne va pas se mentir, la réalité des marchés sur Radio Immo.
Stéphane Fritz, au dehors du studio, il fait très bon, c'est le printemps, c'est même l'été. Le printemps de l'immobilier, c'est une période très particulière, après deux printemps de l'immobilier un peu compliqués avec le confinement, le Covid, etc. Est-ce que ce printemps 2022 est à la hauteur de vos espérances? On dit, on entend qu'il a bien démarré et puis il y a eu un petit coup d'arrêt.
Alors déjà, la période de Covid n'a pas été une période compliquée s'agissant de l'immobilier, puisque on n'est pas sans savoir qu'on a fait déjà... On arrive de deux années records en termes de volume des ventes. Donc, c'est égal pour le premier trimestre ou le premier quadrimestre, c'est égal aujourd'hui à la période de l'an dernier. Cependant, on augure aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, que ce soit aujourd'hui la conjoncture économique, l'inflation et l'augmentation des taux de crédit, dont on parlera un peu plus en détail, on imagine que le volume des ventes va se contracter, revenir à des proportions un peu plus normales pour ce marché, qui est aux alentours de 900 000, 1 million, et non plus 1 million 2, comme ça a été le cas l'année
dernière. J'entends en creux, Stéphane Fritz, jusqu'ici tout va bien, mais ça pourrait commencer à être plus compliqué?
Non, je pense pas, mais je pense que c'est sûr, ça va se compliquer. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, moi je suis pas devin, ni Madame Irma, je sais pas dire combien de temps elle va durer, mais en l'état aujourd'hui, elle a déjà impacté le pouvoir d'achat des Français. Toutes les matières premières ont augmenté, on le voit bien. Et en effet ciseaux, le fait que les conditions d'octroi de crédit, mais Julie en parlera mieux que moi, les conditions d'octroi de crédit, l'augmentation des taux, en effet ciseaux, vont aujourd'hui faire sortir un certain nombre d'acheteurs de l'assiette des gens solvables et en capacité d'acheter.
L'envie d'investir ou de devenir propriétaire, en revanche, chez nos concitoyens, elle est toujours là?
Non, l'envie aujourd'hui, l'immobilier reste une valeur sûre et durablement. Donc l'envie est toujours là, l'appétence aujourd'hui pour l'immobilier est toujours assez forte, c'est est-ce que je peux ou pas? Et aujourd'hui, on le voit déjà, il y a des gens qui pouvaient il y a un mois et qui ne peuvent plus aujourd'hui.
Bon, on va voir les freins du côté des banques justement dans le détail dans un instant. Quelle est la tendance quand même dans le réseau, Guy Hocquet, avec cette magnifique nouvelle signature, nouveau logo, nouvelle couleur également? Voilà, on apprend les couleurs des Pantone avec vous, Stéphane.
Alors, aujourd'hui, le réseau va bien, ça fait déjà 4 ans qu'il se construit pour une période comme celle que nous avons vécue, et pendant les 2 ans encore, qu'il s'est construit plus fortement pour des périodes de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a intégré le service de formation dans notre redevance, on a changé notre identité de marque, notre territoire de marque également, avec, on va pas se mentir, pour dire ce qu'on pense à nos clients et ce qu'il est la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, le réseau va de mieux en mieux, le chiffre d'affaires par collaborateur est plus élevé, le chiffre d'affaires par agence aussi. Donc voilà, on est prêt pour la crise, même si on pense qu'elle va quand même sortir un certain nombre de professionnels aujourd'hui de cette profession, comme ça a été le cas dans la crise des subprimes en 2008 et 2010.
Dans le réseau, du coup, il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui?
Pas d'inquiétude majeure, pas plus qu'il y en a eu en la période de Covid. En avant Covid, on m'a demandé combien on sortirait d'agence ou combien on perdrait d'agence. On a dit zéro. on en a perdu zéro. Donc, on en perdra zéro de la même manière.
Le premier numéro dont on ne va pas se mentir, on regarde un petit coup dans le rétroviseur, c'était sur les franchisés. Depuis, il y a eu le salon de la franchise. Est-ce que là aussi, il y a toujours autant d'appétence pour découvrir ce métier et se lancer dans cette aventure?
Ça n'a pas vraiment été le cas pour le salon de la franchise. C'est un salon un peu particulier parce qu'on a cumulé deux salons d'affilée. C'est-à-dire celui de septembre qui était le report de ceux qui avaient été annulés en 2020-2021. Donc on a eu, en 2021, il s'est passé en septembre et ensuite on en a fait un en mars. En règle générale, depuis 5-6 ans, on avait une centaine de contacts entrants et on signait entre 5 à 7 contrats. Là, aujourd'hui, on a eu 42 contacts entrants seulement. Donc je pense que les visiteurs ne sont pas venus. En revanche, on a signé 6 contrats.
Ah,
donc,
en
termes de performance.
Mais mieux.
En revanche, moins mais mieux, mais ces 60-là nous manqueront parce qu'il y a des gens qui viennent visiter le salon de la franchise. 3 ans en amont, ils sont encore en poste. Ils aimeraient éventuellement, mais ils ne sortent pas encore de leur entreprise. Donc, c'est ces gens-là qu'on a perdus. Alors, maintenant, on a toute la partie digitale qui permet aujourd'hui de se renseigner sur.
Mais
sur
peut-être
la
le
franchise.
Fait d'avoir des salons très rapprochés, c'est vrai que ça.
Voilà, un par an, c'est suffisant.
Ça suffit. Tiens, on nous demande à Thomas Michel, notre grand témoin du jour. Vous êtes vous-même franchisé, vous êtes passé par justement des salons?
Alors, moi, personnellement, pas du tout. Donc, je suis le
vous êtes lancé dans le grand bain tout de suite?
Non, mais en fait, j'ai commencé conseiller sur le terrain transaction Guy Hockey en 2009, en sortie de subprime. Donc, je vois ce que c'est les marchés tendus aussi, puisque je l'ai connu. Et petit à petit, on devient directeur associé, puis directeur tout court. Puis aujourd'hui, 2 agences franchisées, quoi, donc dans le 20e.
Très bien.
Mais j'en connais qui... beaucoup d'ailleurs qui sont venus via le biais en tout cas de la salon de la franchise. Ouais.
Parfait. Allez, tout de suite, on passe à notre experte du jour, Julie Bachet, présidente Vous Financez. Donc, vous me disiez, sur le terrain, vous êtes un courtier spécialiste de ce qui se passe en relation permanente avec les banques. Et on entend partout que les banques sont en train de resserrer les taux de crédit. Pourquoi? Tout simplement parce que là aussi, on a au niveau macroéconomique la banque centrale qui augmente ses taux. Bien sûr, on suit. C'est vrai qu'on avait des taux jusqu'ici qui étaient historiquement bas, Julie Bachet.
Oui, alors sur le sujet, il y a deux questions finalement dans la vôtre. Donc sur la partie est-ce que les banques ont resserré l'appréciation des dossiers de crédit, je dirais que ça avait déjà commencé avec le passage en normes juridiquement contraignantes des recommandations du HCSF qui fait qu'on ne pouvait plus dépasser déjà les 35% d'endettement et les durées de 25 ans. Et au-delà de ça, on sent qu'effectivement ces dernières semaines, nous on a fait un sondage dans notre réseau et c'est 70% de nos franchisés qui nous disent quand même qu'ils ont senti un réel durcissement dans l'appréciation des dossiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir des banques qui vont demander de façon quasi certaine l'apport à minima des frais de notaire. De plus en plus souvent, une épargne résiduelle post-projet, de manière à faire face à un coup dur éventuel, qui vont regarder surtout la localisation du bien et l'éloignement qu'il peut y avoir par rapport au lieu de travail. Est-ce que ça va occasionner des frais supplémentaires, l'achat d'une deuxième voiture, des frais de carburant qui n'étaient pas jusque-là à supporter? Et puis, ça c'est une vraie nouveauté, ils vont regarder la qualité du bien. La manière dont le chauffage est organisé, est-ce qu'on a une chaudière gaz ou pas, et puis surtout la performance énergétique du logement. C'est assez récent, mais on voit que les banques qui sont de plus en plus attentives rentrent ces données-là dans leurs outils d'instruction de crédit, et ça va devenir de plus en plus un enjeu.
Énorme.
Et on voit qu'il va falloir se diriger vers des biens plus performants énergétiquement assez rapidement.
On va dans ce niveau de détail, c'est-à-dire c'est assez étonnant, mais c'est vrai que les DPE, le fameux DPE diagnostic de performance énergétique, a été revu, corrigé. Aujourd'hui, on a comme les réfrigérateurs de A jusqu'à G, avec si on veut louer en tout cas, ça
même
va être compliqué.
Vendre assez rapidement. Hein.
Ouais. Et voire même faire des travaux, parce qu'on peut imaginer.
Alors il faudra faire des travaux, oui, ça c'est sûr.
Financer ad vitam aeternam une passoire énergétique. Ça veut dire que toutes ces données sont prises en compte aujourd'hui par les banques.
Oui.
Donc il faut l'intégrer dans son projet.
Exactement.
Là aussi, comme l'immobilier, comme sur le terrain, on voit en tout cas dans les chiffres, jusqu'ici tout va bien pour les banques. La production de crédit est à peu près similaire, voire un peu supérieure de 10% à ce qui s'était fait l'an dernier.
Alors, sur les crédits débloqués,
oui.
Donc là, on est quand même sur c'est les chiffres de la Banque de France à la fin du premier trimestre, donc on est quand même sur des dossiers qui ont été instruits, en fin d'année, et qui du coup sont des ventes de fin 2021. Sur les nouveaux crédits, l'Observatoire du Crédit Logement confirme quand même que ça commence à ralentir. Nous, sur le réseau Vous Financez, on ne constate pas de baisse majeure, alors hormis sur la période des vacances scolaires, où vraiment on a senti que les gens étaient partis. C'était vraiment très calme. Mais en dehors de ça, là, on sent sur le mois de mai une activité qui est équivalente à celle qu'on a pu connaître sur ce début d'année. on n'est pas particulièrement inquiet. Je le disais tout à l'heure, quand on est dans une période difficile, notre métier de courtier, il prend encore plus de sens. Donc pour nous, cette contrainte, c'est quasiment une opportunité plutôt.
D'accord. La vérité, on la veut évidemment dans cette émission, on ne veut pas se mentir, sur les taux de crédit qui augmentent. On dit que ça bondit, on serait passé de 1,2, alors peut-être pour les meilleurs profils, à 1,5%, voire 1,7%, mais en quelques mois, en quelques semaines. Est-ce que là aussi, c'est une réalité ?
Oui, c'est une réalité. On a des taux qui ont augmenté pour certaines banques depuis le début de l'année de plus de 0,75%. Donc c'est assez important, surtout dans la mesure où ils étaient de l'ordre de 1,20. Donc ça fait une augmentation qui est très forte. En revanche, on reste encore sur des taux qui sont quand même extrêmement bas. Il faut se dire qu'on prête sur 20-25 ans à des taux inférieurs à 2%. C'est des taux qui restent. C'est de bas et de l'argent qui n'est pas cher. C'est des taux qui peuvent encore se négocier en fonction de la qualité du dossier, du profil du client, justement de l'épargne résiduelle post-projet. C'est des indicateurs qui sont importants pour les banques, en tout cas pour le client qu'ils viennent acheter, entre guillemets. Et puis sur les taux, oui, on voit des augmentations. Moi, je pense, et certains de nos contacts en banque nous le confirment, qu'on va voir revenir des prêts révisables, à taux révisables, oui, avec des taux capés. Avec des taux capés, moi, je pense que c'est des opérations qui seront potentiellement intéressantes. Si vous êtes sur un taux fixe sur 7 ou 10 ans, avec ensuite un taux capé à 1%, objectivement, et que vous avez un écart suffisamment important entre un fixe et un fixe 7 ans puis révisable, c'est des solutions qui sont extrêmement intéressantes, qui demanderont de la pédagogie, de l'explication aux acquéreurs. Et là aussi, en tant que courtier et spécialiste du crédit, on aura vraiment une plus-value à apporter aux clients.
Mmh. On précise, hein, pour ceux qui nous écoutent, les taux capés, révisables capés. C'est important parce qu'on sait que ça a été un peu la merde, la dernière grande crise, hein, ces taux révisables, notamment les subprimes, où on se retrouve, si ça suit vraiment les taux et qu'on a des taux d'inflation à 5%, là, ça peut être extrêmement compliqué. Donc chez nous, c'est capé. Ça veut dire qu'un taux fixe qui ne passerait pas, on peut négocier peut-être un taux révisable. Il y aura plus de souplesse ?
Alors, il faut que les banques les remettent dans leur grille, quand même.
Et c'est pas encore le cas.
Ça se discute très sérieusement auprès de deux grands partenaires avec lesquels on travaille. Et là, effectivement, on est sur du mixte, je dirais, fixe, révisable, puisqu'à partir du moment où le taux est fixe, de ce qu'on entend aujourd'hui, ce serait 7 à 10 ans de taux fixe. On sait bien que la durée moyenne de détention d'un crédit, elle est plutôt autour de 7 ans. Donc ça veut dire que finalement, vous serez resté sur un taux fixe toute la durée de votre crédit, alors que vous aurez bénéficié des conditions de taux d'un variable.
Ben oui. Stéphane Fritz, dans une approche patrimoniale, on peut se poser la question, quand on voit, on parle de moins de 2% aujourd'hui, on peut encore signer à moins de 2%, en ayant un bon dossier, on va le voir dans quelques instants, on va voir comment l'améliorer surtout, avec une inflation qui est aujourd'hui à 4, peut-être 5% demain, en tout cas cette année, et on a l'impression que ça va durer un peu de temps, est-ce que c'est pas encore finalement une bonne solution pour placer son argent et son épargne ?
L'immobilier aujourd'hui reste une valeur sûre, donc aujourd'hui on ne s'arrête pas pour 0,60 ou 0,50 de plus aujourd'hui pour acheter, ou alors éventuellement mettre à fonds perdu un loyer. Donc je pense que le sujet ne se pose pas de ce point de vue-là, il y aura toujours l'appétence A. Seulement aujourd'hui, on parle des primo-accédants ou alors des ménages les plus faibles, dont l'augmentation du gasoil, de l'électricité, de l'énergie, de toutes les matières premières. Quand on parle aujourd'hui de l'augmentation de l'huile, c'est les croquettes de chien, c'est tous les produits préparés, enfin c'est impacté partout. Quoi, les chips, c'est impacté de partout. Donc aujourd'hui, ils vont perdre. Non, c'est pas sympa pour les chips. Mais en tout cas, c'est moins sympa déjà pour les.
Surtout pour l'apéro.
Je pense plutôt aux ménages les plus faibles et qui, eux, vont être pour le coup très impactés. Mmh. Et on va faire sortir un certain nombre de personnes de l'assiette des gens solvables, ou en tout cas finançables. Et donc, c'est ça qui va avoir un impact. Mais est-ce qu'on arrête un projet pour 0,60 quand on a les moyens d'emprunter à 1,40 et qu'on passe à 2? Je crois pas que le projet sera arrêté pour autant.
Quels types de profils sont pénalisés aujourd'hui, Julie Bachet ? Vous voyez des gens vraiment pour qui c'est un stop définitif ?
Je verrais trois types de profils qui sont vraiment un petit peu handicapés par ce qui se passe aujourd'hui. Donc ceux qui ont effectivement un taux d'endettement au-delà de 35%. Là, ça devient vraiment très très compliqué d'obtenir un crédit. Ceux qui n'ont pas d'apport et qui n'ont pas à minima les frais de notaire. Là, aujourd'hui, je vois pas vraiment comment ils pourraient emprunter. Et ceux qui ont un reste à vivre qui est relativement faible, effectivement, pour les raisons que vous évoquiez, Stéphane, de se dire l'augmentation du carburant, l'augmentation du coût du chauffage, l'augmentation des produits de première nécessité, etc., ça va avoir un impact dans le budget des emprunteurs. Et donc, il faut le prendre en considération. Donc, ceux pour lesquels le reste à vivre est déjà très serré, ça va être très compliqué.
Ouais, surtout que vous nous avez dit que les banques font aussi attention à qu'il reste un petit peu d'épargne. Et avant, on entendait, voilà, moi j'ai tout mis, toute mon épargne, j'ai tout mis dans mon projet. Là, il faut qu'il en reste un peu parce que c'est vrai que ça augmente. A contrario, quels sont les trucs et astuces qu'on peut connaître, qu'on peut utiliser pour apparaître vis-à-vis de son banquier sous son meilleur profil ?
Alors, moi, j'aurais... Comment ? Non, on ne va pas faire ça. Le conseil que je peux donner, vraiment, c'est de préparer son projet en amont, en réalité. Et le préparer en amont, ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire regarder quelle est sa capacité d'emprunt, puisqu'effectivement, avec la hausse des taux, on voit que cet écart de taux dont on parlait, ça peut être 60 euros d'écart sur une mensualité. Et du coup, c'est 12 000 euros de plus ou de moins sur le budget. Ouais. Donc, puisqu'on doit rester dans ces 35% d'endettement, il faut s'assurer que son budget, on l'a calculé de suffisamment précisément pour aller chercher un bien qui rentre dans cet endettement maximum. Et puis, la deuxième manière de bien préparer son dossier, bah, c'est d'avoir une gestion de compte, de ses comptes bancaires saines, au moins les 3 mois qui précèdent. Enfin, bien sûr, on n'a que de bons emprunteurs, mais c'est comment est-ce que je démontre à mon futur banquier que je suis en capacité à démontrer une capacité d'épargne régulière, que je suis capable d'absorber le saut de charge si éventuellement la mensualité de crédit est supérieure au loyer que j'ai aujourd'hui, et puis à faire face à d'éventuels imprévus. Donc, une bonne gestion de compte. Et un projet qui rentre dans le budget qui aura été déterminé préalablement.
Ouais, ça paraît bête, mais être dans le vert plutôt que dans le rouge, peut-être quelques mois avant d'aller voir le banquier, c'est peut-être
conseillé. C'est pas bête du tout.
Comment booster son apport ? Là aussi, bien s'informer. Il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui. Alors, bien sûr, le PTZ, le prêt à taux zéro, si on est éligible. Mais il y a aussi, peut-être, au sein de sa famille, on peut faire des prêts familiaux. On peut faire aussi plan d'épargne entreprise. On y pense, si on est dans un grand groupe, c'est des cas de déblocage aussi. Il y a des choses comme ça qu'on peut utiliser.
Alors là, vous avez complètement raison. Alors, le prêt à taux zéro, ce n'est pas considéré comme de l'apport personnel pour les banques, puisque c'est un prêt que la banque fait elle-même et pour lequel il y aura un remboursement. Donc ça fait déjà bien longtemps que le prêt à taux zéro n'est plus considéré comme de l'apport personnel. Une aide familiale plutôt qu'un prêt familial, c'est mieux, parce que qui dit prêt dit remboursement. À partir du moment où il y a un remboursement, il doit être pris en compte dans l'endettement. Donc un soutien de la famille pour réaliser un projet, ça c'est une bonne chose. Vous avez raison, pour les PE, le fait d'acheter sa résidence principale ou de réaliser des travaux à l'intérieur sont une raison de débloquer son PE. Et puis ensuite, il y a certaines collectivités ou l'Action Logement qui peuvent faire des prêts bonifiés ou des primes qu'ils vont octroyer plutôt aux ménages modestes, le plus souvent quand même pour de l'achat dans le neuf, mais qui vont pouvoir être des aides qui seront prises en compte dans le crédit.
On veut toute la vérité sur également pourquoi faire appel à un courtier. Vous allez nous dire, bien sûr, c'est génial. Est-ce que vous êtes toujours plus efficace que les banques, que sa banque traditionnelle ?
Alors, puisqu'on ne va pas se mentir, moi j'ai travaillé 17 ans dans la banque avant d'être dans le monde des courtiers, donc je peux effectivement vous dire que dans une période comme celle d'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire et pertinent en tout cas d'aller voir un courtier, puisqu'aujourd'hui on a des banques qui vont revoir leur grille de taux parfois 3 fois dans le mois. Ce qui veut dire qu'au même moment, il peut y avoir des écarts extrêmement importants d'une banque à une autre dans la grille de taux qu'elles proposent, en fonction de leur stratégie commerciale, en fonction de la manière dont elles ont réimpacté l'augmentation des taux directeurs. Et nous, on a ces infos, nous courtiers, on a ces infos en temps réel. Ce qui veut dire que venir voir un courtier, c'est avoir la certitude qu'on lui proposera la banque qui, à l'instant T, a les meilleures conditions. Et puis la deuxième raison qui me semble essentielle, c'est qu'aujourd'hui, pour maintenir des conditions tarifaires, les taux qu'ils proposent, les banques demandent à ce que les dossiers soient bouclés en une dizaine de jours maximum. Nous, on a cette expertise-là, on a souvent affaire à des pôles habitat qui sont dédiés, et donc on peut accompagner le client pour que son dossier soit bouclé dans les 10 jours et qu'il puisse maintenir les conditions tarifaires qui lui ont été proposées.
Chez Guioquet, vous travaillez avec des courtiers, vous en recommandez, ou vous avez votre propre structure, Stéphane ?
Aujourd'hui, chez Guioquet, on a ouvert 3 marques différentes, 5 exactement, mais 3, puisqu'on a, depuis déjà 2018, lancé l'agence multiservice avec Guioquet Financement, Guioquet Assurance, Guioquet Patrimoine, Guioquet Gestion, Guioquet Expertise pour les diagnostics et les états des lieux. Et donc aujourd'hui, on a nos propres structures déjà en interne dans le groupe Arche, qui est derrière la cuisine de Guioquet Financement. Maintenant, beaucoup de nos agences travaillent avec des courtiers, pour le coup, qui soient sous enseigne ou sans, et qui ont des accords déjà depuis de longues dates, des accords déjà locaux, avec lesquels on fait. Mais en tout cas, on accompagne systématiquement nos clients sur les ventes, mais je crois que Thomas pourra mieux en parler que moi.
Thomas va nous répondre dans un instant. Je voudrais juste terminer sur également peut-être la façon de faire baisser au global la note. C'est l'assurance emprunteur. Est-ce que là aussi on dit qu'il faudrait la souscrire la banque se rattrape un petit peu entre guillemets sur cette assurance emprunteur. Désormais on peut la détacher. Est-ce que là aussi on peut faire appel à un courtier pour négocier cette assurance emprunteur, J. Bachet ?
Alors oui, l'ensemble de nos courtiers sont aussi courtiers en assurance et peuvent donc s'occuper de cette partie-là. Je ne crois pas qu'on puisse résumer l'assurance de la banque juste au fait que la banque se refait un peu la cerise sur l'assurance. C'est un peu vrai, mais ça n'est pas que ça. Passer par l'assurance de la banque, c'est aussi être garanti par le fait qu'en cas d'incident ou de problème, de décès, d'invalidité, etc., vous allez contacter la banque et c'est elle qui fera le nécessaire auprès de la compagnie d'assurance. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas, vous, emprunteur, face à une énorme compagnie d'assurance, vous êtes une banque importante qui va négocier avec une assurance. Et on sait que négocier avec les assureurs, c'est jamais évident. Donc nous, on est plutôt favorable à dire... On peut assurer une partie du crédit auprès de la banque. Ça rassure aussi la banque puisqu'elle est sûre qu'en cas d'incident, le crédit sera remboursé par l'assurance emprunteur. Mais on propose en complément ce qu'on appelle un complément de quotité qui va venir garantir les emprunteurs au-delà des 100% et possiblement jusqu'à 200% et qui, en cas de décès ou d'invalidité, va verser un capital aux emprunteurs et non pas à la banque. Et ça veut dire que l'emprunteur, à ce moment-là, aura toute latitude de choisir s'il souhaite solder son crédit, utiliser ce capital pour payer les études des enfants, pour payer des charges, l'aménagement de la maison si finalement, malheureusement, l'un des deux est handicapé, etc. En tout cas, ça va fonctionner un peu comme une prévoyance.
Oui.
Et donc, on va mixer ces solutions de manière à avoir les bénéfices des deux. Évidemment, ces compléments de quotité sont moins chers que les assurances de la banque, donc ça permet au global d'avoir une couverture à 200% moins cher que si on l'avait faite dans la banque et avec des garanties complémentaires et différentes.
Ouais, solution intéressante, hein, effectivement, à creuser. Merci Julie, vous restez avec nous. On se penche vers notre grand témoin du jour, c'est Thomas Michel. Merci d'être là, franchisé Guy Hoquet, dans le 20e arrondissement. Vous avez deux agences, hein, c'est ça ?
Exactement, oui, deux agences.
Voilà, alors une petite réaction à ce qui vient d'être dit, justement. Est-ce que vous, sur le terrain, hein, c'est la question, vous voyez peut-être un ralentissement, peut-être des conditions qui se tendent, peut-être des gens qui viennent vous voir, qui ont trouvé le projet de leur vie, mais ça ne passe pas au niveau de la banque ?
Alors, au niveau national, en tout cas, je suis un peu mal placé pour en parler. Donc, je vais écouter Stéphane qui nous guide tous les trimestres.
C'est le phare dans la nuit. Stéphane.
Exactement. En tout cas, au niveau local, à Paris, plus particulièrement dans le 20e, là où j'ai les deux agences. Déjà, un constat qui est très vrai, c'est au niveau de l'obtention des crédits. En fait, on sent que les acheteurs aujourd'hui, malgré tout, ils ne restent pas encore très concernés par les mesures d'encadrement par les banques, donc les fameux 33 ou 35% d'endettement. Mmh. Si nous, on n'est pas derrière pour recalculer, dès que quelqu'un appelle pour un appartement à budget, on va très vite, et surtout actuellement, sur une erreur d'appréciation du budget des acquéreurs. Donc déjà, nous, on est obligé de le faire avant le courtier. Et ensuite, plus que tout, on essaie de les préconiser à passer par un courtier. Les Parisiens, pour habitude, il faut quand même le reconnaître, d'un peu faire à leur sauce au niveau du financement. Moi, je le constate depuis 2009, donc c'est pas...
Bien sûr.
Pas usurpé en tout cas, mais on leur préconise de le faire. Déjà, ils gagnent souvent en mensualité. Et surtout, en fait, ce qu'on voit le plus, c'est encore une fois les erreurs d'appréciation. Ça, c'est quand même assez dingue. Peu importe la catégorie socio-professionnelle de l'acheteur, hein, que ce soit du primo-accédant, second-accédant, quelqu'un qui a très gros budget, souvent il y a des erreurs d'appréciation.
Alors, précisez-nous au niveau de ces erreurs d'appréciation, qu'est-ce que c'est ?
Alors, comme il a été dit tout à l'heure, les fameux 35 ou 33% d'endettement en fonction de sa situation, de son apport, concernant les frais de notaire notamment, pour les investisseurs. On voit encore régulièrement des SCI se constituer pour faire de l'investissement en cherchant de la rentabilité, mais ils n'ont pas compris, en fait, ça ne date pas malheureusement d'il y a 3 mois. Hein. Ça fait déjà au moins une bonne année que c'est comme ça, suite au Covid, qu'on ne peut pas avoir un crédit aussi facilement que ça pour faire de l'investissement locatif.
C'est-à-dire ce qui a été possible peut-être à une certaine époque avec ces fameuses sociétés civiles immobilières, aujourd'hui, ne passe plus dans le montage.
Exactement.
Et le banquier va vous dire, désolé, vous avez peut-être
c'est vraiment du cas par cas.
Là, c'est terminé.
Tout à fait, ça c'est vraiment du cas par cas. Donc là, en plus, pour nous, en tant que professionnels, il faut vraiment rentrer dans l'intimité du projet, donc ce n'est pas forcément évident, donc on recommande de passer... par des courtiers, quoi. C'est fondamental.
Alors justement, je rebondis sur le sujet des SCI, puisqu'effectivement, là aussi, consulter en tout cas un expert du crédit, ça fait sens, puisque les recommandations du HCSF et donc ces fameux 35% d'endettement qu'on ne doit pas dépasser ne s'appliquent qu'aux particuliers. Ce qui veut dire que si on est sur une SCI ou une société SARL familiale, mais qu'on est soumis à l'IS ou qu'on est considéré comme professionnel, on n'est plus soumis à ces 35% d'endettement. Donc là aussi, nous consulter, c'est trouver les solutions qui permettent de s'extraire de ces contraintes en passant d'un financement particulier à un financement professionnel. Donc il y a des solutions. La SCI peut parfois être une bonne solution. Certaines banques les accompagnent, mais c'est pas toutes. C'est pas toujours son conseiller. Donc effectivement, c'est important de savoir à qui s'adresser.
et pas oublier les coûts de fonctionnement d'une société et l'imposition qui va avec, donc à savoir projeter.
Voilà, il ne faut pas non plus monter une usine à gaz, parce que ça peut être, ça peut être compliqué ou beaucoup plus onéreux in fine.
Oui, souvent qu'en plus, quand on regarde ces montages-là de SCI, ce sont des particuliers lambda, même des fois des primo-accédants qui cherchent tout simplement à investir. Et bah, c'est souvent du bouche à oreille, en fait. Ils pensent que faire une SCI, c'est bien. Alors, quand on n'a pas de bien immobilier, je peux vous dire une seule chose, faire une SCI, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, autant l'acheter à titre personnel et avoir un bon conseil et acheter son bien. Maintenant, il y a aussi autre chose sur le terrain, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est l'appréciation par rapport au crédit relais. On a encore énormément de profils acheteurs qui cherchent sur Paris, en tout cas, à acheter avant de vendre. Et ça, c'est une erreur qu'on constate trop souvent et on voit dans certaines situations des sacrées douches froides. Donc en fait, vous avez des propriétaires qui aujourd'hui s'endettent en faisant des montages de crédit relais à des valeurs de vente qu'ils ont estimées eux-mêmes ou malheureusement surévaluées par d'autres confrères. Nous, on a une approche de conseil et comme on le dit, on va pas se mentir. La valeur actuelle du marché, c'est ça pour votre bien. Surtout, faites attention si vous voulez acheter avant. Ils nous écoutent pas. Et malheureusement, on se retrouve avec des situations financières quand même assez compliquées. Je pourrais donner plusieurs exemples.
Ça veut dire qu'il y a des valeurs aujourd'hui dans Paris qui sont en train de baisser ou des gens déçus qui croyaient, bah, tiens, on leur a dit c'est 10 000 minimum où qu'on soit et finalement ils s'aperçoivent que pas
c'est
exactement.
C'est très faux. C'est plus que faux. Alors je vais donner un chiffre quand même. Nous, on voit un ralentissement à Paris sur le terrain depuis plus d'un an. Il y a eu un vrai coup de fusil, c'était le troisième confinement, donc c'était en mai dernier, hein, si ma mémoire est bonne, vous me confirmez. Voilà, de mars à mai. Et on s'est tous dit, génial, on va pouvoir réouvrir en mai, on a accumulé des biens à la vente, ça va repartir, parce qu'on sent que les perspectives du Covid étaient bonnes. Et parallèlement, je voyais les chiffres que nous communiquait Stéphane, pendant cette période-là, en visite virtuelle, etc., les ventes sur le marché de toute la France, en province, hors agglomération, c'était incroyable l'augmentation du volume de vente. Et quand on a réouvert, c'était le 19 mai, je m'en souviens très bien, Paris vide. Tout le monde est resté en vacances, ou en fait a profité de cette période pour acheter, et ils ne sont pas revenus. Je ne connais pas le chiffre exact. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, j'ai fait une stat, et encore aujourd'hui, elle est vraie, une estimation sur deux, c'est pour partir de Paris. Mmh. Donc, il y a forcément moins d'acheteurs, les prix baissent. Moi, je peux vous le dire, depuis un an déjà, ce n'est pas la situation de l'Ukraine, ou les élections, ou les taux qui augmentent, qui changent cette mentalité. Par contre, elle l'accentue. C'est vrai que depuis trois semaines, on sent un gros, gros ralentissement de la demande.
Ouais, réaction, on a tous connu, dans notre entourage en tout cas, quelqu'un, voire plusieurs personnes qui ont décidé, avec le télétravail, avec des changements peut-être de vie, de professionnel, d'aller voir un peu hors de Paris, si l'herbe était plus verte ailleurs. Est-ce qu'on assiste à un exode? C'est vrai que ça a été un peu la tarte à la crème il y a un an, mais on a l'impression, un an après, que voilà, il y a quand même des choses qui se sont matérialisées, qui ont maturé dans l'esprit de nos concitoyens.
On ne pensait pas, à la sortie du Covid, je ne pensais pas que les Parisiens y sortiraient du périph. Donc, j'avais un avis.
On était tous rassurés.
Je suis parisien aussi, donc j'avais un avis. Je pensais que, qu'en règle générale, le Parisien, quand il sortait du périph, il se vaccinait fièvre jaune. Il avait peur de l'extérieur, le Parisien très auto-centré. Et en fait, j'avais tort. J'avais tort. On a constaté dans un premier exode par saut de puce. Les gens de Paris allaient en première couronne en deuxième un peu plus loin. On le voit aujourd'hui, les villes moyennes ont sorti clairement leur épingle du jeu avec des prix qui sont passés jusqu'à à 10, plus 10, 15% de plus dans certaines villes aujourd'hui. Donc la Covid, on peut le dire, a réaménagé le territoire bien mieux que 50 années de politique de gouvernement différents et de tous bords. Donc oui, clairement, aujourd'hui, le réaménagement du territoire. Maintenant, est-ce que ça va se faire durablement? Je le souhaite, mais il va falloir que demain, les pouvoirs politiques, pour le coup, aient une vision du logement ou de l'habitat, de comment on va habiter ensemble, autrement que sur 5 ans ou 10 ans, mais bien sur 20 et peut-être même une cinquantaine d'années. Le dernier qui a fait ça, c'est Haussmann. Donc autant vous dire que depuis, il ne s'est rien passé de ce point de vue-là. Les gens habitent à côté des infrastructures, à côté des centres névralgiques, qu'ils soient culturels, économiques, administratifs, enseignements. Donc on habite à côté de là où ça se passe, et notamment pour des raisons aussi écologiques, ou même de coût, tout simplement économiques, pour pas avoir à faire 30 bornes pour aller au travail ou à l'école. Donc là, aujourd'hui, oui, le réaménagement du territoire s'est clairement fait, dans le sens des villes moyennes et aux dépens, bien évidemment, des grandes agglomérations. Exactement. Le ralentissement de Paris, en partie, le réaménagement, en tout cas la Covid, a poussé les gens. Et puis, en effet, ciseaux, et encore une fois, l'Ukraine, ça n'arrange pas, mais ça touche pas trop les Parisiens, parce que moi, j'ai constaté pendant deux ans, aucun dossier, aucune offre n'était faite avec des conditions suspensives de prêt à Paris. On fait 7 à 800 ventes dans Paris. Aucune vente, tu constates peut-être la même chose Thomas, il n'y a pas de conditions suspensives de prêt. Les gens arrivent pratiquement avec le cash ou en tout cas en capacité d'acheter.
Ouais,
Et ça commence maintenant, on commence à avoir des conditions suspensives de prêt sur Paris, alors que depuis 2 ans, on n'en voyait pas. Donc oui, ça se contracte un peu à Paris. Maintenant, Paris, c'est un peu l'exception en France.
C'est l'exception du marché, j'ai l'impression.
Oui, c'est l'exception française aujourd'hui. Mais oui, le réaménagement du territoire est une vérité.
Et Thomas, justement, dans les demandes, alors reste pour le coup sur votre territoire que vous connaissez extrêmement bien, le 20e, il y a un effet justement de ces 2 années sur les demandes, les nouvelles demandes, puisqu'on a beaucoup parlé de volonté justement d'espace, verdure, extérieur, au cas où ça nous retomberait sur le nez, cette histoire de confinement. aujourd'hui, on arrive quand même à la demander là pour n'importe quel type de bien.
Alors justement non, il y a un gros resserrement. Bah, de toute façon, on arrive dans la continuité de ce qui nous expliquait Stéphane, pardon. On arrive en fait à une segmentation de la demande. Moi, j'appelle ça comme ça maintenant, parce qu'il y a plus d'autres mots. Disons que sur le marché du primo accédant, sur des budgets de 300 à 400 000 euros, on n'a pas trop de difficultés à partir du moment où l'appréciation du prix de mise en vente est correcte, en toute sincérité. Par contre, c'est vrai, et on se réunit entre directeurs d'agence Guy Hockey très régulièrement, c'est vrai que passer 600 000 euros maintenant dans certains arrondissements de budget, bon, ce qui est quand même conséquent par rapport à d'autres villes, vous pouvez mettre une annonce en ligne à des prix très abordables, vous pouvez ne pas avoir d'appel pendant un mois, ni le mail.
Ce qui n'était pas le cas encore.
Ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans. Et en fait, c'est mathématique, on sait maintenant pourquoi. Un, ces personnes qui vendent ont déjà acheté et sont en crédit relais, ou alors sont mutées pour des raisons de télétravail, d'envie de verdure, peu importe, je ne suis pas juge. Et fatalement, ces clients-là qui en fait achetaient plus grand, aujourd'hui sont partis. Donc on se retrouve avec énormément de biens sur le marché à ces valeurs-là, et fatalement, vous n'avez beaucoup moins de demandes en face. Donc...
On peut imaginer comme un petit peu d'une manière un peu cyclique. On a aujourd'hui peut-être des gens qui partent en province, qui vont voir effectivement, mais qui pourraient revenir à un moment se dire, ne serait-ce que parce que le télétravail ça a été accepté par les entreprises, et puis finalement au bout de peut-être de quelques mois, on va s'apercevoir que les centres de décision sont quand même à Paris pour des mobilités professionnelles. On a envie d'avoir ses collaborateurs non pas à Bordeaux, à Nantes ou à Marseille, mais effectivement en Île-de-France. Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet contraire?
Alors, déjà, on le surveille, cet effet contraire, possible, parce qu'on s'est posé déjà la question de savoir si les gens revenaient en s'apercevant qu'il fallait faire 10 km et prendre la voiture pour acheter le pain, quand avant, on y allait en bas de la maison. Donc, on s'est posé cette question-là. Pour l'instant, on ne le constate pas du tout, sauf cas exceptionnel. Et bien évidemment, on a tous des exceptions, de gens qui sont partis, qui sont revenus, mais ça reste très, très à la marge. Aujourd'hui, ce n'est pas constaté. Cette envie de plus de verre, de plus d'espace. Je crois que la période de confinement des 2 mois, les 2 premiers mois, a été extrêmement traumatisante dans l'imaginaire collectif, on va dire. On croit qu'on a été en prison, en réalité. C'est une guerre sans fusil, cette période de Covid, c'était terrible. Des morts, des gouvernances par ordonnance, enfermées chez nous.
C'est la drôle de guerre.
C'était une drôle de guerre. Et donc, je pense que ça a été beaucoup plus traumatisant qu'on ne le pense. Et c'est ça qui réaménage le territoire et qui dit, plus jamais ça, Alors qu'on pense... Enfin, je ne sais pas si on est à l'abri ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus traumatisant qu'on a pu le penser.
Thomas, on termine avec vous justement sur les perspectives peut-être que vous avez. Bon, évidemment, vous continuez à faire vivre vos 2 agences et à surveiller ce marché. Quel état du moral? On est optimiste, on est prudent, prudemment optimiste, pessimiste?
Moi, je suis optimiste, peut-être parce que je le suis par nature, puis qu'on a appris aussi à se relever des échecs. Donc, il faut être optimiste. Tout est cyclique. Donc, il se peut très bien. On a un peu la même philosophie. Donc, j'ai pas de boule de cristal pour savoir si dans 3 ans, les gens en auront marre du télétravail et faire 10 km pour acheter une baguette de pain. Étant provincial à l'origine, moi, je sais que je pourrais plus le faire. Donc, il y a peut-être d'autres gens qui vont penser comme moi. En tout cas, non, il faut être optimiste. C'est vrai que la demande a changé. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a été traumatisant le Covid. Parce que quand vous avez un bien en dernier étage avec vue dégagée ou l'extérieur, là, les acquéreurs, ils regardent pas le prix au mètre carré. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça qu'en fait, la baisse, elle n'est pas aussi impactante que ce qu'on pense. Par contre, je peux vous garantir qu'on revient à des vraies règles de valorisation des étages. Un 5e étage peut peut-être se vendre 40% de plus que le premier. Ce qui n'était plus le cas depuis des années à Paris, où on était sur un groupement de prix de marché homogène.
Ouais. Et donc, on vendait un peu tout et n'importe quoi au même prix. D'ailleurs, vous étiez ému, effectivement. Ben voilà, il y a peut-être les cartes sont rebattues, comme vous le dites. Ben un grand merci. On arrive déjà au terme de cette émission. On aura donc saisi beaucoup de choses. Attention, ça on le savait, les taux sont en train de remonter. Mais on peut encore ficeler son dossier ou faire appel au meilleur courtier pour convaincre son banquier pour que son dossier passe. On reste optimiste. Stéphane, c'est aussi votre moto là.
Oui, clairement optimiste aujourd'hui. La période de crise, des réseaux comme le nôtre, en tout cas, sont très organisés et structurés pour passer ces périodes de crise. Ce qui rend optimiste, c'est que même si aujourd'hui les prix baissent, ce sera ponctuellement. Il n'y a pas suffisamment de logements. Ils repartiront à la hausse derrière. Donc, il n'y a pas de sujet. Par contre, il faut pouvoir geler son projet pendant 3 ou 4 ans. Ceux qui ont des projets derrière de déménagement, de mutation, d'enfants en plus ne pourront pas le faire. Après, bonne nouvelle, c'est quand vous vendez moins cher, vous rachetez aussi moins cher. Donc, faut se détendre sur le sujet. Et cette période de crise, on la souhaite la plus courte possible, et c'est ce qu'on constate, des crises beaucoup plus rapprochées, mais beaucoup plus courtes et mieux maîtrisées, que ce soit par les pouvoirs publics ou par les entreprises. Donc je ne suis pas inquiet, par contre, voilà, ça va secouer pendant les 2 prochaines années, je pense.
Voilà, pas d'inquiétude. Pour le président, Stéphane Fritz, président de Guillaume, merci beaucoup. Merci à Julie Bachet, notre experte du jour, la directrice générale de Vous Financer. Notre grand témoin, c'était Thomas Michel, franchisé Guillaume. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro dont on ne va pas se mentir.
On ne va pas se mentir, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.